Réno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Et bienvenue sur nos antennes en direct de cette seconde édition du forum Réno Days à la Porte de Versailles. On est en direct sur Radio Immo, Radio Territoria et puis sur YouTube de Bâti Radio pour vous faire vivre cet événement. J'ai le plaisir d'être avec Laurent Nataf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président et le cofondateur de Domelior. Alors on va discuter d'un sujet brûlant, les soubresauts de la politique de rénovation énergétique en 2025. Bon, c'est vrai que après trois mois de suspension, le guichet MaPrimeRénov a rouvert le 30 septembre dernier, bon, pas pour longtemps puisqu'il a bugué, il y a eu trop de visites, 150 000 visites et ça a fait bugger le site internet. En tout cas, on va parler de cette refonte du dispositif hein, qui est désormais plus axé sur les ménages très modestes et puis on va parler aussi des effets concrets des décisions hein, politiques, des conséquences sur le marché et surtout les solutions pour redonner de la stabilité à une filière essentielle pour la transition écologique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous rappeler votre rôle avec Omelior?
Alors Omelior, c'est un groupe dans la rénovation énergétique en France. On a donc deux axes de travail chez Omelior. Tout d'abord, Omelior Service, qui est une société d'accompagnement aux professionnels de la rénovation énergétique, des professionnels qu'on va accompagner sur le financement justement de ces aides, les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov, et toute la partie donc accompagnement réglementaire, conformité, le but étant de leur donner un peu de visibilité justement sur les différents dispositifs. Et Omelior Habitat, qui est une entreprise qui accompagne des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique.
Donc là, les particuliers en fait. Voilà, viennent sur votre site internet, par exemple, et après, ils
font une demande. Exactement.
Il est rappelé.
Des conseillers qui vont faire une découverte avec le client, voir leurs besoins, étudier en fait leur logement pour savoir comment, au mieux, en fonction du logement, de la note énergétique, de la typologie du logement, comment on va améliorer la note énergétique du DPE. Et voilà, on les accompagne au mieux. Et après, au-dessus, quand c'est avec les professionnels, on leur donne justement toutes les armes pour qu'ils puissent accompagner au mieux eux-mêmes leurs clients.
Donc deux structures, B2B et B2C.
Oui.
Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs, ces deux structures?
70 collaborateurs.
D'accord. Répartis comment?
Alors répartis, vous avez une énorme partie qui sont vraiment du contrôle conformité. On va en fait contrôler les dossiers de demande d'aide de nos installateurs partenaires.
Oui.
Après, on a des chargés d'affaires sur la partie B2C qui sont une petite quinzaine qui vont accompagner. D'accord. Justement les particuliers. Et après, tous les services habituels d'une entreprise, services juridiques, marketing, etc., etc.
Alors, quel est l'impact immédiat des stop and go justement que vous constatez, l'impact que vous constatez sur les artisans et les ménages que vous accompagnez? Alors, j'appelle ça stop and go, mais hier, c'est vrai qu'il y a différents acteurs ici qui m'ont dit non, c'est pas des stop and go, c'est des stops tout court.
Alors, ça fait depuis 2017 que Omelior travaille dans la rénovation énergétique. Alors moi, je considère peut-être plus que c'est des stop and go, puisqu'en fait, vous avez des dispositifs qui s'arrêtent, d'autres qui repartent. Ouais. Et c'est vrai, alors pour une entreprise, pour un artisan, pour une entreprise comme Omelior, c'est vrai que c'est assez compliqué en fait d'avoir des plans sur plusieurs années. Aujourd'hui, nos investissements, on les fait plutôt à court terme. On ne sait pas, d'ailleurs aujourd'hui, on ne connaît pas encore le BP qu'on a sur 2026. On sait qu'il ne sera pas confirmé, puisqu'il y aura beaucoup de changements, et ça, c'est ce qui se passe chaque année. Donc, on ne peut pas investir sur le long terme, on ne peut pas avoir en fait des plans de développement sur plusieurs années. C'est assez compliqué pour les entreprises de la rénovation énergétique. En fait, on avance de manière assez floue. Et pour les particuliers, tout simplement pour les particuliers, c'est ne pas savoir en fait quel type de projet ils vont réaliser, quelles aides ils vont avoir le droit et surtout quand est-ce qu'ils vont le faire.
Alors justement, vous avez évoqué publiquement, on va dire, des familles prises en otage, ce sont vos mots, par la suspension du coup de MaPrimeRénov qui a eu lieu en juin. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous avez remarqué sur le terrain, de ce que vivent ces ménages justement aujourd'hui, et puis peut-être nous parler aussi de cette perte de confiance généralisée envers les dispositifs publics?
Clairement, la rénovation d'ampleur, donc l'accompagnement, le parcours accompagné de MaPrimeRénov, quand il est sorti, ça a été peut-être la meilleure nouvelle pour les ménages français. Puisqu'on avait un niveau d'aide qui n'avait été jamais vu auparavant, qui permettait l'augmentation de la note énergétique, qui est un vrai sujet aujourd'hui chez les Français, puisque avec l'interdiction de location des logements G, c'est quelque chose qui peut faire peur.
Donc ça, c'est pour les propriétaires bailleurs.
Pour les propriétaires bailleurs et pour les propriétaires occupants. ils sont très, très attachés aussi à leur note énergétique, à leur facture, etc. Donc,
quand, il y a une décote quand la note est mauvaise au niveau de la valeur du bien.
Au niveau de la valeur du bien, mais après même au niveau de leur portefeuille, puisque la note est mauvaise, plus ils ont des factures d'énergie qui sont censées être élevées. Et pour eux, en fait, c'était une excellente nouvelle. Donc tout le monde s'est un petit peu jeté sur ce dispositif-là en se disant, on va d'un coup améliorer la note énergétique de notre maison, donc les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants, etc. Et en fait, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que des dossiers de demande qui sont très complexes à monter avec l'accompagnateur Rénov, avec la création des comptes, etc., qui peut prendre 2-3 mois. En fait, l'accord de l'ANA, on pensait l'obtenir en 3-4 mois maximum, et aujourd'hui, on se rend compte que les accords que nous obtenons aujourd'hui sont des accords qui arrivent au bout de 10 à 12 mois après la demande qui a été faite. Donc concrètement, pour un ménage, on va prendre un exemple très concret, un ménage qui a fait sa demande en septembre ou en octobre 2024, ouais, qui pensait avoir ses travaux avant l'hiver. Donc typiquement une famille qui n'a pas rempli sa cuve à fuel et qui s'est dit « je vais attendre et j'aurai de toute façon avant l'hiver mon nouveau système de chauffage, ma nouvelle isolation, etc. Bah, » se retrouve à commencer ses travaux en septembre 2025. Donc pour certains, bah, ils ont complètement abandonné le projet.
Bien sûr.
Ils ont dû faire des travaux en urgence de façon très artisanale. Pour d'autres, ils ont attendu, mais dans un confort qui était extrêmement dégradé pendant cette année. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils n'ont strictement aucune visibilité. Mmh. Donc nous, aujourd'hui, notre quotidien, c'est de recevoir des appels de nos clients particuliers qui nous demandent bah, où ça en est, quand est-ce que je vais avoir mes travaux. Et bah, tout simplement, on ne peut pas leur répondre. Et quand ils appellent en fait, les directions départementales, les DDT qui gèrent leur dossier, ils n'ont pas de réponse non plus. Et donc ça, c'est vraiment le premier impact, c'est qu'on ne sait pas.
Ouais. Et là, quand vous échangez, j'imagine, vous essayez d'avoir des liens directs, des communications directes, par exemple avec l'ANA, avec les pouvoirs publics, où ça en est ?
Alors c'est très compliqué. En plus de ça, sur le parcours accompagné, c'est géré par chaque département. Donc vous avez en fait, c'est chaque département qui gère de façon totalement indépendante ces dossiers. Donc il y a des départements où ça va très vite, d'autres où ça va pas vite du tout, d'autres où ça...
C'est très dépendant de la manière dont c'est géré en fait au niveau départemental.
Tout à fait. Et certains départements parfois qui reprendre contact avec nous pour nous dire, bah là, c'est arrivé par exemple au mois de septembre, bah là on n'a plus de budget jusqu'à l'année prochaine. Sachant que l'année prochaine, le budget n'est pas encore le parcours accompagné n'est pas encore renouvelé, il y a des dossiers qui sont en attente, on ne sait pas s'ils arriveront.
Est-ce que vous pouvez nous donner justement des départements où c'est très compliqué et d'autres à l'inverse, où ça va plus vite, où il y a peut-être moins de dossiers, où c'est mieux traité?
Alors je sais que dans le 91, ça va assez vite. Ils sont plutôt bien formés, ils connaissent un petit peu tout ça. D'accord. Et puis après on a des départements, je ne vais pas vous dire de bêtises et vous donner des départements comme ça sans en être sûr, mais je crois que c'est dans la Creuse où c'est très compliqué, oui, et c'est assez bloqué. Là je crois que c'est dans le 54 où il n'y a plus de budget. Voilà, c'est un petit peu les échanges qu'on a. Alors on a des gens au téléphone qui évidemment ont envie de faire avancer les dossiers,
bien sûr,
mais il y a un manque de moyens, ouais, on leur a pas permis de recruter, on leur a pas donné du budget pour ça, et les dossiers sont surtout aussi très complexes. Un dossier de demande, il y a tout un dossier du MAR, il y a un audit énergétique, il y a des devis très détaillés, donc c'est assez complexe pour eux aussi. Donc la faute n'est pas forcément sur les directions départementales, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne leur a pas donné les moyens d'y arriver.
Alors du côté des professionnels, on parle de chantiers reportés, de trous d'activité, voire d'entreprises fragilisées ou même qui mettent la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous observez, vous, concrètement, sur le terrain ?
Alors, c'est clairement ça. Clairement, on va prendre l'exemple d'Omélior Habitat, ouais, notre société d'installation. Entre juillet 2024 et mars 2025, il y a environ 800 dossiers de demandes de parcours accompagnés qui ont été déposés. Qu'on pensait finaliser au plus tard au 31 décembre 2025. Alors on parle, on a eu sur ces 800 dossiers 150 dossiers validés par l'ANA, donc acceptés par l'ANA, et sur ces 150 on en a terminé à peu près 80-90, les autres sont en cours de travaux. Il y a d'autres choses à prendre en compte, c'est-à-dire que quand on commence des travaux en hiver, il y a des choses qu'on ne peut plus faire en hiver, notamment l'isolation thermique des murs par l'extérieur, puisque techniquement quand il fait froid, bah, la colle ne sèche pas, les travaux ne sont pas bien faits, donc on reportera ces travaux au printemps prochain. Donc clairement en fait notre chiffre d'affaires a été clairement décalé, et on a eu des trous de chiffre d'affaires entre septembre 2024 où on pensait commencer nos chantiers et mars-avril où on a commencé à en avoir, on était quasiment à zéro sur ce type d'opération là et aujourd'hui en fait les accords qu'on obtient arrivent clairement au compte-gouttes, puisqu'on parle entre 10 et 17 accords par mois. Et il y en a plusieurs centaines qui sont en attente.
Alors bon, la nouvelle version MaPrimeRénov, c'est vraiment raboté. Hein, donc c'est issu des textes publiés au Journal officiel, donc c'était le 9 septembre. C'est marrant parce que ce matin, j'ai reçu le président de la chambre du Grand Paris, de la FNAIM du Grand Paris, qui me disait qu'il avait été consulté dans le cadre du du Conseil National de l'Habitat, je vais y arriver, CNH, justement sur ces textes, qu'ils avaient tous mis leur veto, et puis finalement que ça a quand même été publié deux jours après le 9 septembre. attendre. Donc, en gros, c'est une réforme profonde du dispositif, recentrée sur les passoires thermiques, EFG. Les plafonds ont été abaissés et exclusion des gestes clés comme l'isolation des murs ou les chaudières biomasse. Selon vous, alors ça, ce sera à partir de, en fait, de janvier 2026.
Pour les monogestes.
Pour les monogestes. Oui. Selon vous, ces conséquences, en fait, quelles sont les conséquences de ces mesures sur la dynamique de la rénovation en France, vous qui accompagnez les ménages, quel est votre avis sur ces changements?
Si on se met à la place des ménages, la première chose, c'est qu'ils n'y comprennent rien. Tous ces changements, ils entendent des chiffres, ils entendent des produits, clairement, ils n'y comprennent rien.
Nous, ça nous parle parce qu'on est dedans, mais eux, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas.
Ouais. Donc, en fait, ça rajoute du flou. Mm. Pour eux, en fait, c'est de se dire, en fait, ce n'est pas le moment, c'est trop compliqué, ça change tout le temps, on sait que ça ne marche pas, on nous parle de plein de choses. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça va éloigner les Français de ces dispositifs-là. Ensuite, le fait de dire sur le parcours accompagné, on va baisser les primes, on va se concentrer sur le EFG. Très bien, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que les dossiers soient traités. Avant toute chose, que les dossiers soient traités dans des temps qui soient fixés à l'avance, qu'on se donne en fait des délais maximum. Alors, dans les communications de l'ANA, on nous annonce 4 mois pour traiter un dossier, 4 mois pour un paiement, mais ce n'est pas la réalité.
La réalité?
La réalité sur le traitement de dossier, c'est 10 mois.
Ouais, 10 à 12 mois, c'est ça.
Voilà, c'est 10 à 12 mois, et en moyenne, on a un peu plus de 10 mois de délai de traitement sur les dossiers. Et ça, en fait, c'est pas entendable pour un particulier. Alors nous, en tant que professionnels, si on le sait à l'avance, on peut s'adapter évidemment à cela, mais pour un particulier, c'est très compliqué. Ensuite, sur le monogeste, la filière bois, clairement, avec l'arrêt des chaudières biomasse, eh bien, évidemment, ça va impacter en fait la filière bois et les artisans Calibois, donc ceux qui ont le référencement Calibois, ils vont en vendre évidemment beaucoup moins, puisque la chaudière bois, c'est quelque chose qui coûte relativement cher, et les aides qu'il y avait a permis de dynamiser un petit peu le secteur. Maintenant, sur les particuliers en eux-mêmes, je ne suis pas sûr que c'est un vrai impact. Et encore une fois, le particulier, tout ce qu'il a envie de savoir, c'est savoir s'il le fait maintenant ou dans 6 mois, savoir exactement à quelles aides il a le droit, qu'est-ce qu'il doit faire pour les avoir, et qu'on arrête en fait d'être toujours dans ce parcours du combattant, d'avoir des changements en fait tous les 6 mois, en fait, mais des changements très importants tous les 6 mois, parce que là, en fait, on crée de la confusion chez les particuliers qui vont commencer à abandonner en fait leur projet de rénovation énergétique. Aujourd'hui, on entend des particuliers qui disent « Moi, je préfère rester au gaz ou au fioul, au moins. Ça marche, j'ai pas de problème. Je vais pas devoir chercher derrière, courir derrière les aides, monter des dossiers, faire des demandes où on sait pas comment c'est, etc. » Et voilà. Et puis, même en passant par une entreprise comme Omelior, où on est censé leur faciliter l'accès à ces aides-là, on se rend compte que ils doivent quand même attendre un an, même en passant par nous.
Oui, c'est vrai que vous avez un rôle justement pour essayer de massifier cette rénovation énergétique et accompagner les Français. Je rappelle que vous êtes un acteur privé et engagé depuis longtemps, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2017, dans la démocratisation justement de cette rénovation énergétique. J'aimerais avoir votre avis sur le paradoxe politique. On interdit la location des passoires énergétiques, ça a commencé avec le calendrier mis en place par la loi Climat et Résilience. Donc pour l'instant, c'est les G qui sont interdits. En 2028, ce sera les F. Mais à côté, on restreint justement les aides pour les rénover. Comment vous analysez ce paradoxe politique et est-ce que vous avez des demandes de ménages justement des propriétaires bailleurs? Est-ce que vous avez des ressentis? Est-ce qu'ils sont inquiets?
Alors, ils sont extrêmement inquiets. On échange beaucoup avec les propriétaires bailleurs, avec les syndics de copropriété. On échange énormément au quotidien là-dessus. Alors oui, ils sont inquiets. Parce que déjà, pour la plupart, ils ne savent pas quel type de travaux il faut réaliser pour améliorer la note. Pour la plupart, les aides, en fait, ne sont pas forcément en fait, une obligation pour le faire. Et ça, c'est ce qui est un tout petit peu rassurant, notamment pour les propriétaires bailleurs.
Ils n'attendent pas les aides pour...
Non, ils n'ont plus le choix. Donc, en fait, à partir du moment où il n'y a plus le choix, on va faire des travaux. Il ne faut pas oublier qu'en fait, la plupart des aides qu'on voit, en fait, depuis 2017, pour nous, ça a été toujours beaucoup ciblé sur les maisons individuelles. Mm. L'interdiction des locations des logements G sera beaucoup d'appartements. Mm. Donc, c'est un petit peu différent, ces travaux qui sont un peu plus petits aussi.
Oui.
Donc, l'idée, en fait, pour nous, en tant que professionnels du secteur, c'est de pouvoir justement plutôt leur apporter des solutions à cela. Et des solutions, il en existe, même s'il n'y a pas d'aide.
Le montant des travaux en rénovation énergétique, c'est plus important quand c'est en maison que quand c'est en appartement.
Oui,
il y a plus de choses à faire dans une maison, en fait.
Plus de choses à faire dans une maison. Après, en appartement, on peut s'attaquer à l'intérieur de l'appartement sans passer par la copro et tout de suite sortir du G ou du F assez facilement. En isolant les murs intérieurs, en changeant les fenêtres, avec des petits gestes, des choses comme ça, on peut arriver facilement à sortir de cette interdiction de location. Mmh. Ça, on y arrive. Donc, il y a cette inquiétude. Ils se disent, s'il y a des aides, tant mieux. Mais en fait, c'est la première fois qu'on les contraint. Donc, cette contrainte, moi, je la trouve très bénéfique parce que justement, ça les fait sortir un petit peu justement des aides justement. Et là vraiment on s'attaque aux propriétaires bailleurs, ce sont des gens qui touchent des loyers, qui sont prêts à prendre un petit financement s'il le faut pour le faire. Donc c'est un autre type de population que le propriétaire occupant qui lui paye son crédit, qui a beaucoup moins de budget en fait pour pouvoir payer ses travaux. On est
après,
vraiment
il y a des propriétaires bailleurs qui ont des crédits aussi derrière.
Évidemment, énormément. Mais quand on leur dit, vous avez un crédit, mais vous n'aurez plus le droit de louer, ils préfèrent en fait se réendetter un petit peu sur des travaux ou débloquer de l'épargne plutôt que ne plus pouvoir louer, ne plus pouvoir toucher de loyer. Donc en fait, là, on les a contraints. Clairement, on leur a dit, c'est obligatoire, etc. Maintenant, c'est vrai que si il y avait des aides, on pourrait beaucoup plus facilement en fait les contraindre et accélérer cette rénovation énergétique. Maintenant, pour parler de massification de la rénovation énergétique, nous, le problème principal qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux grands dispositifs qui s'affrontent. Les certificats d'économie d'énergie, donc qui sont financés par ce qu'on appelle les obligés, donc les entreprises énergétiques françaises, qui vont financer en fait les travaux de rénovation énergétique. Donc c'est un dispositif qui existe depuis maintenant de nombreuses années, qui a fait ses preuves, même si évidemment il y a des choses à améliorer, notamment sur la partie contrôle, etc. Mais en tout cas, c'est de l'argent privé. Ce n'est pas de l'argent qui sort des caisses de l'État. Et il y a quelques années, l'État a décidé de créer le guichet MaPrimeRénov pour justement compléter les certificats d'économie d'énergie, mais là avec de l'argent public. Et là aujourd'hui, en fait, on a une certaine confrontation entre ces deux dispositifs d'aide. D'un côté, de l'argent public, où l'État, en fait, on a l'impression qu'il souhaite vraiment garder la main là-dessus, mais en même temps, il n'y a pas de moyens.
Il y a de moins en moins.
Et alors, il n'y a pas de moyens sur les équipes déjà, parce qu'il faudrait recruter. Ouais, oui. Ils gèrent plusieurs milliards, mais en fait, on les met dans les départements, on les met aussi. Il y a DocaPost qui va gérer pour eux en fait certaines demandes, mais il n'y a pas assez de moyens qui sont mis. Et puis, les caisses de l'État sont vides. Aujourd'hui, c'est des économies qu'il faut faire. Je pense que l'État ne peut plus se permettre en fait de mettre du budget et d'augmenter surtout le budget dans MaPrimeRénov. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu entre un peu pris en étau entre les deux. Donc sur le monogeste, typiquement, on cumule les deux. Sur la rénovation d'ampleur, donc le parcours accompagné, c'est que MaPrimeRénov qui va financer, mais qui derrière va réussir à sortir du gisement ses deux œufs à revendre sur les marchés. Donc en fait, ils ont complexifié quelque chose qui pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et je pense que on n'aura pas de massification tant qu'ils n'auront pas simplifié tout ça en disant voilà, il y a un dispositif, voilà comment ça va fonctionner. Alors nous, on milite pour le C2E, puisque il n'y a pas d'argent public, donc c'est toujours plus simple en fait à gérer. Mais en fait, il n'y aura pas de massification tant qu'on ne va pas simplifier. Donc le but premier, c'est d'abord de simplifier tout ça et pouvoir voir sur le plus long terme aussi pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent investir, pour des particuliers, pour qu'ils puissent se dire je suis dans les temps, j'ai le temps, je peux regarder, je peux voir, mais ça ne change pas tout le temps et qu'en fait, on est un dispositif qui fonctionne avec du contrôle, beaucoup, beaucoup de contrôle, puisqu'il y a de l'argent, en fait, il y a des aides, donc il faut qu'il y ait plus de contrôle, du contrôle qui soit beaucoup plus cohérent que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant.
Et donc un contrôle public, en revanche.
Alors, public ou pas, en fait, on peut imposer aux entreprises privées. Nous, on est mandataire C2E pour de grands obligés, de grands énergéticiens français, parmi les plus grandes entreprises françaises. C'est nous qui gérons le contrôle. On a une responsabilité, en fait, nous, sur la réalité du chantier.
Vous contrôlez les dossiers.
On fait plus que contrôler les dossiers. On contrôle le dossier, on contrôle le chantier sur place, on contrôle le client, on échange avec eux, en fait. Et nous, on met les moyens pour ça. Puisqu'on est entreprise, on reste une entreprise à but lucratif. Donc, il y a une partie de notre marge qui est investie sur la partie contrôle. C'est pas l'argent public. Donc, c'est notre argent qu'on investit sur le contrôle pour s'assurer que tout est bien fait. C'est notre métier. Et je pense que c'est sur ça, aujourd'hui, qu'il faut investir.
Donc, vous êtes pour un dispositif unique, là on l'a bien compris, c'est les C2E, donc vous êtes pour une suppression de MaPrimeRénov.
Si toutefois ils décident en fait de sécuriser les C2E sur du long terme, avec des dispositifs et des aides, quelque chose de beaucoup plus cohérent qu'aujourd'hui. Si on dit aujourd'hui on coupe et on n'a que les C2E, surtout pas, puisque les C2E ne suffiront pas.
Bien sûr. Donc développer les C2E, sécuriser les C2E et en revanche, à côté, supprimer MaPrimeRénov, de toute façon, qui s'amenuise petit à petit.
Bon, surtout, aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui va se passer l'année prochaine sur MaPrimeRénov.
Ça, c'est sûr. Déjà, on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine au niveau du gouvernement. Merci infiniment, Laurent Nataf, pour votre éclairage précis et votre expertise très intéressante. On est toujours en direct de ce forum Rénodez, cette seconde journée de cette seconde édition, à la porte de Versailles. On est ravis de vous faire vivre cet événement sur nos antennes. On se retrouve dans quelques instants pour une autre interview. À tout de suite.
Rénodays, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.